Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani, le 8h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition matinale dont voici les titres. À moins de deux semaines de la fête de Tabaski, le marché de Beta et le marché de Bamako sont-ils suffisamment approvisionnés en moutons? Des dispositions sont-elles prises pour sécuriser le transport de bétail? Élément de réponse dans cette édition. Des étudiants maliens et des recteurs des universités russes ont échangé hier à Bamako sur les modes d'inscription de les universités russes. C'était à l'occasion du premier forum sur l'éducation russe Mali. Les 20 000 déplacés dans le cercle de Nyono s'expriment sur leurs besoins en vivre et non vivre. Ces personnes déplacées sollicitent un accompagnement des autorités. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imran Akelo Maïga. À quelques jours de la fête de Tabaski, le marché à bétail de Bamako ne sont pas encore bien approvisionnés en moutons. Selon les éleveurs venant des régions du centre et du nord, cela est dû à l'insécurité qui freine le transport des animaux vers les grandes villes. Les responsables de la filière à bétail du Mali indiquent que la situation n'est pas favorable malgré les efforts des autorités pour sécuriser les différents axes de transport. Le point avec Aboubakarine Ag Mohamedine Yatara.
De Bankass en passant par Bandiagara, les éleveurs se disent inquiets de la situation sécuritaire qui entrave l'acheminement des moutons sur Bamako. Ils estiment que cela a un impact sur les prix des moutons.
Depuis les enlèvements des cars, où les populations ont perdu beaucoup d'animaux, la population se réserve de faire le trajet. Cela va beaucoup impacter, non seulement sur la vente sur le terrain. Nous, notre souhait le plus ardent est que vraiment l'administration arrive à sécuriser la RN15.
La population d'ici n'a pas de moutons ni de chèvres. C'est pourquoi nous partons chercher les bétails à Douanza pour venir les revendre à Banyangara. Pour aller à Douanza, le transport est cher. La route est aussi difficile.
Des propos soutenus par Modibo Ba, trésorier général de la Fédération des éleveurs du Mali. Selon lui, les enlèvements et détournements des camions de transport de bétail persistent malgré les efforts des autorités.
À Bamako, les moutons n'ont pas commencé à venir. Le premier problème d'abord, c'est l'insécurité. C'est au nord du pays, au centre du pays. Des fois, les camions sont détournés par les djihadistes. Des fois, les marchands sont arrêtés et tués. Notre organisation et le ministère, on s'organise pour sécuriser plus ou moins vraiment ces marchands-là. L'État fait des efforts, mais ça ne suffit pas.
Notons que les responsables de la filière bétail promettent qu'il n'y aura pas de pénurie de moutons à Bamako pour la Tabaski.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement en Twitter. Le premier forum sur l'éducation russe à Mali a débuté le 28 mai 2024, se poursuit à Bamako. Hier mercredi, le recteur des universités russes ont rencontré les responsables des universités publiques et privées, des étudiants et des élèves candidats au bac. Objectif, approfondir les explications sur les filières porteuses qu'ils proposent aux étudiants maliens. Oumar Waïgalo était à la rencontre.
Pour Dr Simone Asiati, directeur exécutif de Scolari Finance, un réseau spécialisé dans le financement des étudiants en mobilité internationale, l'objectif de ce forum est d'amener les étudiants à poser toutes les questions pour qu'ils puissent avoir des informations claires et précises.
De permettre aux étudiants maliens de toucher du doigt et de discuter avec les universités russes présentes sur leur sol, d'avoir les informations, de poser des questions et s'il faille, avoir des inscriptions directement avec ces universités présentes.
Les élèves et étudiants présents à ce forum se disent satisfaits des explications données par le recteur russe. Ils indiquent qu'ils sont prêts à s'inscrire dans les universités de la République fédérale russe.
Nous, on aimerait partir en Russie pour faire des études.
Je suis prêt pour aller en Russie, pour aller étudier là-bas.
Je suis curieux d'aller là-bas, voilà.
Je vais étudier la géologie.
On a eu beaucoup d'informations. On va essayer de voir si on pourra arriver là-bas, comme ils l'ont dit.
Ce forum qui prend fin ce vendredi 31 mai a regroupé des recteurs et des enseignants des grandes universités et des écoles d'ingénieurs des différentes régions de Russie et des experts maliens.
La ville de Nyono accueille chaque jour de nouveaux déplacés selon le service local du développement social et de l'économie solidaire. Ils sont plus de 20 375 000 personnes déplacées à vivre dans le cercle. Ces personnes ont fui les violences communautaires et les affres de l'insécurité dans certaines communes du cercle et les régions voisines. Elles ont besoin d'un soutien humanitaire urgent en vivre et en non-vivre. Le point avec Intelag Bilal, notre envoyé spécial à Nyono.
C'est avec un sourire que Koulibaly nous a invités ce mardi à prendre place au sein de sa nouvelle demeure. Un vieux bâtiment d'une chambre-salon qu'il partage avec sa femme et ses trois enfants. Il nous parle des conditions de vie difficiles de déplacer.
Nous avons reçu une aide composée de riz, mille, l'huile et des spaghettis. Quand je suis arrivé, ils ont inscrit gratuitement mes enfants à l'école, disant que je suis un déplacé. Aujourd'hui, les temps sont vraiment durs pour nous. Nous demandons de l'aide.
Pourtant, le service du développement social et de l'économie solidaire de la localité précise que les déplacés de Nyono ont bénéficié à plusieurs reprises d'assistance en vivre et en non-vivre. Ousmane Sogoutogo, chef du service du développement social du cercle de Nyono.
Toutes ces personnes déplacées reçoivent des appuis tels que appui alimentaire, puis en abri aussi, il y a des transferts cash aussi. Également, il y a les soutiens psychosociaux pour les enfants, puis appui aussi en termes de scolarisation des enfants et aussi des prises en charge sanitaires s'il y a lieu.
Notons que tous les déplacés du cercle de Nyono bénéficient d'un système d'enregistrement biométrique permettant d'éviter les doublons et de connaître au moment opportun leur nombre exact. De Nyono, Intala Agbilal pour Studio Tamani.
La deuxième édition du Festival des Innovations a débuté ce mercredi 29 mai 2024 à Bamako. Le thème de cette deuxième édition est « Délocaliser pour innover ». Le festival est organisé par la communauté Kabako en partenariat avec le ministère de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du tourisme. Michel Kadidia Traoré, présidente et cofondatrice de la communauté Kabako, au micro de Sita Sidibé, nous retrace les objectifs de cette deuxième édition.
On a créé ce festival parce que Kabako a ce modèle qu'on appelle le modèle High Indigenous. On a travaillé avec des artistes, des 4 collectifs différents dans Bamako. Et à chaque fois, on allait dans différents quartiers de Bamako. On avait des masterclass qui parlaient d'intelligence artificielle, de l'éthique de l'intelligence artificielle. Parce qu'à Kabako, on travaille sur le sujet de l'intelligence artificielle depuis 2019. Et cette année, c'est différent. L'événement a un autre format. On a pris plusieurs salles dans le CICB pour montrer tout ce que la communauté Kabako fait. Vous allez avoir des potiers, des maçons qui sont venus de Djéné, de Bandiagara. Vous avez différentes régions du Mali qui sont représentées ici avec les meilleurs de leurs artisans en termes de poterie, de vannerie, pour pouvoir montrer nos savoirs locaux qui sont ancestraux.
Un guide de pratique du bon journaliste a été présenté ce mercredi aux hommes des médias à la Maison de la Presse. Il s'agit pour l'auteur de transmettre aux journalistes les méthodes et stratégies d'interview dans le métier de policier. Cet ouvrage, selon l'auteur, aidera le journaliste à éviter la manipulation et autres dérives. Bala Traoré, contrôleur général de police, auteur du guide pratique du bon journaliste, est au micro de Studio Tamani.
On sait que le journaliste, tout comme le policier, son travail c'est de poser des questions, de creuser, de fouiller pour trouver la vérité. Mais dans cet exercice-là, il se trouve que dans certains cas, ceux qui sont en face font tout pour dissimuler la vérité. Alors comment faire pour les percer à jour? Comment faire pour aboutir quand même à la découverte de ce qu'il ne veut pas qu'on sache? Et comme il y a une similitude entre les deux professions, dans la mesure où il s'agit de poser des questions à un individu pour lui soutirer des informations, je me suis dit que certaines méthodes employées d'un côté, côté policier investigation, peuvent être utiles de l'autre côté, côté investigation, mais pour les journalistes. La finalité, c'est aider nos frères journalistes, lorsqu'ils ont quelqu'un à interviewer, d'éviter d'être manipulés par celui qu'ils interviewent.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Dans chaque famille, qu'il soit le lieu du travail ou à la famille, dans chaque milieu, qu'il soit le lieu du travail ou la famille, on rencontre des personnes spéciales qui ont ce talent de vous arracher le sourire, même dans les moments les plus difficiles. Découvrons ces personnes qui ont le don de détendre l'atmosphère. C'est dans la rubrique de Zoom sur, réalisée par Fatih Yattara.
C'est des gens qui généralement créent de l'ambiance dans leur entourage par leur manière de taquiner ou de réciter des anecdotes très drôles. Ces personnes me rappellent une jeune dame du nom de Kadja. Cette dernière n'a rien à envier aux comédiens, même les plus agrégés. Avec elle, c'est comme le dit le comédien, tu veux ou tu veux pas, tu vas rire. On l'a surnommée à cause de ça, cousine Veruca. Elle chahute tout le monde, souvent sans s'en rendre compte même. Il fallait l'entendre confondre certains de ses collègues de travail avec des personnages de la télé ou des livres, juste pour rire. Par exemple, quand elle veut s'adresser à son collègue Mamadou, Amadou, Khalifa ou encore Halima, elle dit « Hey, petit chaperon rouge » ou « Soulier Batigui » qui veut dire « Porteur de gros souliers » ou encore « Moussokoroba » entendez par là la vieille femme pour héler Halima qui n'a même pas 40 ans. Alors, c'est l'éclat de rire à ne pas en finir. C'est pourquoi les jours où elle s'absente, elle manque à tout le monde. Certains l'appellent pour prendre de ses nouvelles et s'exclament « Hey, petite, tu sais, le service est vide sans toi, hein ?» Souvent, les milliers du travail peut être stressant. Ne dit-on pas que rire évacue le stress et renforce le système immunitaire. Il a aussi beaucoup d'autres bienfaits. Les gens qu'on kadja sont les acteurs d'une dynamique sociale, car le rire est souvent ce qui nous réunit.
Compte rendu de Fatih Yatara, merci. Ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imrana Kilomega. Au Mali, 30% des décès par an sont imputés aux maladies non transmissibles selon l'Organisation mondiale de la santé. Rien qu'en 2023, 46 700 personnes sont décédées de suite de ces maladies. Il s'agit notamment des maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, de maladies respiratoires chroniques, entre autres. Ces chiffres axés sur le Mali sont donnés par l'Organisation des Nations Unies en charge de la santé. Des spécialistes expliquent que ce taux de décès lié à ces maladies par le manque de structures médicales adaptées. Pourtant, le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la Santé, indique que des mécanismes sont mis en place par l'État pour réduire le nombre de mortalités liées à ces maladies. L'épidémiologie des maladies non transmissibles au Mali, c'est le thème de notre magazine Santé du jour. C'est une réalisation de Ali Cissé.
Dans ces nombres croissants de décès, 12% au Mali sont liés aux maladies cardiovasculaires. Docteur Nouhom Wan, cardiologue et ancien président de la Société malienne de cardiologie, avance quelques raisons qui expliquent ce pourcentage.
Il n'y a pas beaucoup de structures qui peuvent accueillir les urgences et puis les gérer correctement. Les populations ne vont à l'hôpital que quand elles sentent que vraiment ça les dépasse. Et puis une autre raison, c'est que les plateaux techniques sont vraiment très très démunis, il n'y a pas beaucoup d'équipement. Les médicaments sont parfois chers, il y a aussi le problème de moyens.
Les cancers sont également une de ces maladies non transmissibles qui détruisent des vies. Plus de 1200 morts sont enregistrées par an. Le cancer du col de l'utérus et celui du sein sont les plus fréquents au Mali. Docteur Madani Li, cancérologue à l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg, revient sur les facteurs qui augmente les risques.
Il y a deux types de facteurs de risque. Il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque modifiables qui sont liés à notre habitude de vie et il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque qui sont constitutionnels. Parmi les facteurs de risque constitutionnels, on peut parler par exemple de l'âge. Plus une femme est exposée aux hormones, c'est-à-dire quand il y a le début des règles tôt et une ménopause tardive, ça augmente son risque de développer un cancer du sein.
Comme maladie non transmissible, il y a aussi le diabète. Cette maladie qui touche environ 3,7% de la population malienne selon la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique comporte également des facteurs de risque. Des spécialistes indiquent que certains comportements humains favorisent le diabète et conduisent à l'irréversible. Docteur Nana Kamara de l'ONG Santé Diabète à Bamako recommande des habitudes à observer pour éviter la maladie.
Avoir un poids corporel normal. Faire une activité physique d'intensité modérée. On a la marche rapide, on a le vélo et de façon régulière, au moins 30 minutes par jour. Il faut avoir une alimentation saine.
À Gao au nord, tout comme à Sikasso au sud du pays, des populations se sentent concernées par cette maladie. Elles affirment que leurs prises en charge sont effectives sur place. Par contre, des difficultés sont signalées par rapport à la prise en charge du cancer.
À Sikasso, c'est pas facile de vivre avec le diabète.
Oui. Le diabète ainsi que la tension, ça peut être détecté à partir de Gao. Le soin est facile.
La meilleure des choses, c'est de se consulter régulièrement, d'être discipliné sur le plan alimentaire, en même temps dans le traitement.
Le cancer, pour le moment, on n'a pas le moyen nécessaire de dépistage ici à Gao.
Des difficultés reconnues par le ministère de la Santé à travers la Direction générale de la Santé et de l'hygiène publique. Mais Dr Abdoulaye Kone de la Division de la Santé mentale et de la lutte contre les maladies non transmissibles indique qu'il y a une politique nationale d'intégration de ces maladies au niveau de toutes les pyramides sanitaires au Mali.
Il y a un mécanisme d'intégration de ces pathologies au niveau des soins de santé primaire, que ce soit au niveau des CSRF ou des CSCOM, ces maladies-là peuvent être traitées. C'est vrai que pour le moment, nous n'avons pas pu intégrer toutes ces maladies. Nous sommes à l'intégration du diabète. diabète à tous les niveaux des sociétés ou sociétés comme du Mali. Le diabète peut être traité. L'hypertension également. Il y a aussi une sensibilisation continue des populations sur les facteurs de risque de ces maladies.
On estime que 80% des maladies non transmissibles peuvent être évitées. Elles dépendent de facteurs de risque modifiables, notamment le tabagisme, la mauvaise alimentation, l'alcoolisme, entre autres, selon la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique.